I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee.
Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, au live mensuel exclusif avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance.
Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
And we're back. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Christian Juno, bienvenue sur Sens Créatif.
Bonjour Laurent, bonjour Jérémy, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Ah bah, c'est un grand bonheur.
Pareil.
Ça faisait longtemps qu'on voulait faire cet épisode.
C'est vrai. Ça fait un an que Laurent Mtane, il dit, il faut avoir Christian Juno sur le podcast. Donc, on y est. Donc, on est très content, Christian, de pouvoir aborder avec toi ce sujet ô combien tabou mais vaste que celui de l'argent. Et sache qu'en 5 ans d'existence, on n'a que très, très peu abordé le sujet sur le podcast. On se demande pourquoi. Et donc, du coup, on est très heureux d'ouvrir la boîte de Pandore avec toi aujourd'hui. Donc encore une fois, merci d'être avec nous. Avant de plonger dans ce vaste sujet, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et puis nous dire aussi ce qui te motive à sortir du lit le matin?
Oui, alors me présenter, donc je suis donc suisse, économiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans une grande banque, 17 ans comme conseiller en placement financier. En 2009, j'étais licencié suite à la fameuse crise des subprimes et j'ai décidé que je n'allais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner des êtres humains. Alors j'ai fait beaucoup de communication violente, je me suis formé aux approches systémiques, je suis coach certifié, enfin encore à différentes autres approches, et puis le thème de la relation à l'argent s'est imposé à moi parce que d'une part j'étais organisateur d'un gars qui s'appelle Peter Koenig depuis 3 ans qui lui avait fait des années de recherche sur ce thème-là et animait des ateliers sur la relation à l'argent dans 3 langues et 10 pays. Et puis un jour, au début que j'étais indépendant, il m'a dit « Christian, tu peux aussi le faire à ma place ». Alors outre que j'ai touché le complexe de l'imposteur, qui suis-je pour remplacer le maître? J'ai commencé à faire ça en plus de ce que je faisais. J'ai vu que, j'aimais, les gens aimaient, ça avait de l'impact. Et petit à petit, de fil en aiguille, je n'ai fait à peu près plus que ça, puisque c'est ce thème qui, là où j'étais appelé, ce thème qui réconciliait mon passé, que je croyais être une erreur de banquier, et mon présent, effectivement. Et donc, voilà, j'interviens autant sur Internet qu'en présentiel dans toute la francophonie, en Europe, au Québec et au Maroc bientôt aussi. Voilà, donc ce qui me fait que je me lève le matin avec grand plaisir et que le mot travail n'est plus un mot que j'utilise dans mon vocabulaire parce que tellement il me paraît éloigné de ce que je fais, je parle d'ailleurs de mon activité professionnelle pour trouver un autre mot, c'est que moi j'ai une passion, c'est ma contribution. J'adore contribuer à la société, au mouvement, j'adore contribuer à du mieux-être, j'adore contribuer à ce que la personne ose délivrer le meilleur d'elle-même, rayonner qui elles sont, tout en équilibrant le donner et le recevoir. Et le recevoir, c'est de l'argent en partie, mais c'est bien plus que de l'argent, mais c'est aussi de l'argent.
Ah ouais, donc c'est comme un appel, quoi. Ouais.
Oui, absolument. Donc, c'est vrai que je suis toujours en recherche de nouvelles manières de faire, comment impacter plus de monde, mieux, plus vite, enfin, faire bousculer la société, la changer, parce que je crois vraiment que les histoires d'argent sont des grands pièges de notre société, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire.
Piège. Ouais, vas-y Laurent.
Vas-y, Jérémy, ouais, le piège, tu dis.
Ouais, tu peux développer l'idée du piège.
Oui, le piège, je veux dire, c'est que en ce moment, on est dans une société où il y en a qui en ont toujours plus, et puis il y en a beaucoup qui ont toujours moins. Donc ça, c'est du systémique. Et alors, bien sûr, on peut passer notre temps à juger ceux qui en ont toujours plus, mais on peut se dire pourquoi ceux qui en ont moins ou ceux qui s'autorisent pas à en avoir plus, qu'est-ce qui fait que quelque part, on s'autorise pas à prendre notre tranche de gâteau, notre part de gâteau. parce que ce que vous faites, ce que je fais, ce que tous ceux qui font, qui nous écoutent, ça a de la valeur. Et cette valeur-là, elle peut aussi s'exprimer en argent. Donc, si tu veux, il y a tellement de personnes qui, inconsciemment, ont tendance à repousser l'argent en disant oh, « c'est pas pour moi » ou « un petit peu, je veux bien ». Quelque part, il n'a que ouvrant les bras pour tous ceux qui repoussent leur argent. C'est dans ce sens-là que je dis c'est du systémique. À un moment donné, si ceux qu'on en a beaucoup, c'est parce qu'on est d'accord qu'ils en aient beaucoup et puis qu'on est d'accord qu'on n'en ait pas beaucoup. Et vraiment, ce que je partage, c'est que je crois vraiment que la vie est prête à nous amener. On voit pas, peut-être je voulais les bras tout grands. Et que par la majorité des êtres humains, ils ouvrent le canal du recevoir comme ça. Donc la vie est prête à nous amener tellement plus. Mais quand je dis tellement plus, c'est encore une fois au-delà de l'argent, c'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est de la gratitude, c'est du soutien sous plein de formes et c'est de l'argent aussi. Donc c'est là qu'il y a pour moi un piège systémique qui fait qu'on en est là parce qu'on a tous participé à ce qu'on en soit là aujourd'hui. Moi le premier.
Je crois que c'est le truc qui m'a fait tilter la première fois que je t'ai écouté et c'était au micro de Fabrice Laurent sur Histoire d'argent. Et je crois que c'était Myriam Multini qui nous avait parlé de toi encore en amont. Et tu as parlé justement, alors je sais plus si c'était chez Fablou, mais c'est venu assez vite après parce que j'ai écouté d'autres choses. Mais tu as parlé justement de cette histoire de gâteau, de cette histoire de grosse tarte, en fait, où il y avait ces parts-là. Et ça m'a fait vraiment super tilt parce que je me suis dit, effectivement, il y a aussi l'idée, de se dire si on prend une part de tarte, on n'ose pas en reprendre une autre parce qu'on se dit, bah, on pique la part de quelqu'un d'autre. Et toi, t'as débunké ce truc-là. Explique-nous cette métaphore en fait de la tarte ou du gâteau.
En fait, alors c'est vrai que dans la perception de beaucoup, qui est si j'en prends plus, c'est qu'il y en a d'autres pour, il y en a moins pour d'autres. Alors ce qui serait une réalité, si on est 6 autour de la table, qu'on a une tarte et je prends une plus grosse tranche, effectivement les autres auront moins. Simplement, ce que nous, la plupart des êtres humains, ne sommes pas conscients, c'est que la tarte ne fait que grossir. Autrement dit, la tarte qui est à disposition de la société est toujours plus grande. Quelqu'un me disait l'autre jour, enfin quelqu'un en qui j'ai confiance, disait l'autre jour. Depuis 3 ans, aux États-Unis, il s'est créé 3 triards, donc c'est des milliers de milliards, je crois, d'argent nouveau. Donc, pour dire que la tarte, elle a augmenté de manière exponentielle. Et si tu veux, beaucoup raisonnent comme si la tarte était toujours de la même grandeur depuis tout le temps. Ce qui n'est absolument pas le cas, parce que la masse d'argent en circulation ne fait qu'augmenter, mais je dis vraiment de manière exponentielle depuis des années et des années. Donc, j'ai pas fait de chiffres, mais je suis convaincu que si on regarde l'argent en circulation, on peut tous être millionnaires sans problème sur Terre. Et qu'il y en a assez.
Ah oui, c'est fou. Et c'est ce qui explique les sommes incroyables qu'on voit, par exemple, dans le sport, notamment dans le football. Ça ne fait qu'augmenter tout le temps, en fait. Ça baisse jamais.
Alors oui, après, on peut être d'accord ou pas. On dit, j'adore le foot. Moi, j'ai fait du foot. J'adore le foot. Mais je dirais le foot business. Il y a une partie de moi que ça fait burk, mais je ne jugerai jamais les joueurs dans le sens que eux, ils sont ceux qu'on utilise pour d'autres pour faire du business, tu vois. Mmh. Et qui serait bête de dire, j'adore faire ce sport. Non, je veux pas d'argent du tout parce que j'aime faire ce sport-là, quoi. Ça peut aussi devenir un métier, comme dessinateur peut être un métier et pas juste un hobby parce qu'on adore griffonner sur un bout de papier, que t'en as du temps, tu vois.
Exactement.
Mais après, il y a d'autres choses qui peuvent être derrière qu'on ne peut pas aimer par rapport à l'essence du sport ou de pourquoi on est là.
Mais toi, Laurent, avec ton contexte à toi, en quoi, en fait, cette métaphore de la part de tarte t'a scotché exactement?
Elle m'a scotché parce qu'en fait, je pense que je suis resté pendant la majorité de ma carrière, c'est-à-dire pendant 17-18 ans, à penser que j'étais bien dans mon aquarium. Tu vois, c'est un petit peu comme c'est l'image du poisson rouge qui est dans son bocal et qui peut pas grandir parce qu'en fait, il est contraint à rester dans cet univers-là. Et le jour où j'ai compris, justement, que je pouvais évoluer dans un aquarium qui était plus grand et justement grandir aussi, ça entraînait derrière cette histoire de gagner plus d'argent. Et je m'étais toujours limité à gagner telle somme par an pour pas avoir peut-être à m'encombrer de TVA, à m'encombrer de problèmes administratifs et puis à me dire finalement je suis content puisque ça me contente. Mais quelque part, je développais pas forcément les projets de cœur. Comme on peut faire finalement maintenant, par exemple avec Sens Créatif. Pourtant, Sens Créatif nous rapporte pas forcément d'argent directement, mais d'engager ces projets de cœur fait que d'ailleurs, en fait, on ouvre cet aquarium là, on rentre finalement dans une rivière, dans l'océan, etc. Je pense qu'après, il y a pas forcément de limite à ça, mais on se sent enfin vivre et on n'est plus contraint justement par des contraintes qu'on s'est mis soi-même sur des espèces de croyances comme ça que tout est compliqué si j'ai plus d'argent. En fait, moi, c'était vraiment ma problématique. Et maintenant que j'en ai plus, il y a d'autres problèmes. mais quelque part, bah, c'est l'idée aussi d'absorber tout ça, puis de s'y confronter. C'est comme une espèce d'entraînement. C'est-à-dire, on apprend, on s'adapte, on change d'environnement, donc on s'adapte aussi. Et bah, les nouvelles contraintes, on les analyse plus facilement et on en fait moins des croyances, on en fait moins des peurs. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, bah, du coup, ton propos, Christian, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà.
Merci.
Tu as écrit un livre, Christian, intitulé « Ce que l'argent dit de vous ». Du coup, je suis intéressé de savoir qu'est-ce que l'argent dit de Christian Junot.
Oui, donc j'ai écrit 4, mais c'est mon premier livre, c'est vrai. Alors, c'est vrai que le vrai titre devrait être d'abord « Ce que ma relation à l'argent dit de moi », parce que quand on va parler d'argent, moi je suis vraiment expert de la relation à l'argent, autrement dit comment nous, des êtres humains, relationnons avec l'argent, par opposition à la numismatique, aux collections de pièces ou l'historique de l'argent. C'est vraiment le lien avec l'argent, entre les êtres humains et avec l'argent aussi là au milieu. Ma relation à l'argent, je dirais aujourd'hui, elle a beaucoup changé par rapport à l'époque. J'avais énormément peur de manquer malgré des super revenus que j'étais à la banque. Et ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer déjà. C'est que la peur de manquer est de loin la problématique numéro une dès qu'il s'agit d'argent également. Là, je suis en plein atelier actuellement de 2 jours. Il y a deux personnes qui sont là, qui sont millionnaires ou multimillionnaires, et que les deux ont peur de manquer, malgré qu'elles génèrent beaucoup d'argent. Donc, tu vois, c'est absolument irrationnel, ce truc-là. Et moi, j'avais une très grosse peur de manquer. Donc, aujourd'hui, dans ma relation à l'argent, il y a une grande sérénité, en tout cas, beaucoup plus de sérénité. Elle n'est pas 100% du temps, parce que je suis un humain avec de temps en temps des peurs qui reviennent. Simplement, j'arrive à les traiter toujours plus. Et surtout, aujourd'hui, je vois l'argent comme un formidable outil de contribution aussi. C'est-à-dire que mon argent, dans la manière dont je la fais circuler, va avoir une incidence différente si je fais des choix en conscience. Donc, pour moi, l'argent est un extraordinaire bulletin de vote. Et au fond, plus j'ai d'argent à faire circuler, plus mon vote peut être impactant, voire puissant, alors que mon vote d'électeur, même en Suisse, où on vote un peu plus souvent que vous, je le trouve absolument... Je me sens beaucoup d'impuissance là-derrière à changer quoi que ce soit avec mon bulletin de vote, mais avec mon argent, d'aller dans des petits commerces plutôt que sur des grandes enseignes pour acheter des livres, par exemple, ou des trucs sur Internet, ou d'acheter des produits de qualité qui sont fabriqués dans la région ou dans nos régions plutôt qu'à l'autre bout du monde. J'ai rien contre l'autre bout du monde. A un impact différent. Et également, quand on a la chance d'avoir suffisamment d'argent, de pouvoir participer à des financements participatifs qu'on appelle crowdfunding et autres, je permets à des personnes qui ont des idées, qui ont des envies et qui n'ont peut-être pas suffisamment de sous, à ce que des projets existent, prennent naissance. Et je me dis chaque fois, ouais, si ce projet existait, notre monde serait déjà un petit peu mieux, un peu meilleur, selon ma perception, qui n'est que ma réalité, qui n'est évidemment pas la vérité. Mais je me dis, ça serait joyeux que ce projet existe, donc je peux y contribuer avec mon argent. Donc, je suis très content de pouvoir partager tout ça avec cet argent-là.
C'est important le mot contribuer, parce qu'en fait derrière, quand tu parlais, tu vois, j'avais des mots qui popaient. J'avais le mot investissement, j'avais le mot mécène, tu vois, qui popaient quand tu parlais de crowdfunding. Mais quelque part, ce qui est intéressant, c'est vraiment contribuer, en fait.
Bon, c'est un mot qui est un peu une obsession chez moi, c'est vrai, je l'ai déjà utilisé X fois, je pense.
c'est une belle chose de contribuer.
En tout cas, moi, je trouve ça, ça me rend joyeux, si tu veux. Quelqu'un vient vers moi, bien, ah, tiens, j'ai lu votre livre ou une conférence, ça m'a beaucoup aidé. Comme tu as dit, Laurent, tout à l'heure, je t'ai entendu, ça m'a débunké un truc. Je dis, ben, génial. Ça veut dire quelque part, je crois qu'on essaye tous de mettre du sens dans sa vie, quel que soit ce qu'on fait. On peut mettre du sens en tant que parent également, mais, ou en tant juste qu'être humain. Il y a 10 000 manières de mettre du sens dans sa vie. Et je trouve que quand on peut le faire d'une manière, créative, dans le sens qui, où on est soi-même créateur de sa vie et qui nous met en joie, parce qu'au fond, on est vraiment, je crois, moi, j'essaie vraiment d'associer activité professionnelle et joie. Autrement, ça n'a pas de sens pour moi. On n'est pas venu s'emmerder, s'incarner ici pour se faire chier sur cette planète. Pas du tout.
Ah, bien d'accord.
Et j'ai eu des problèmes de valeur à l'époque. J'étais à la banque, je m'y convenais plus. Je faisais gagner de l'argent à la banque d'une manière, et j'aimais pas ce que la banque en faisait. Donc, j'étais pris dans mes peurs, des problèmes de valeur, et en même temps, je n'arrivais pas à en sortir parce que, à l'époque, j'avais trop de blocages avec l'argent. Donc, le fait d'avoir fait ce chemin-là, je trouve trop bête de voir tellement d'êtres humains qui ont quelque chose à rayonner et qu'elles n'osent pas le faire pour des questions de relation à l'argent qui est ce qu'elle est, mais qui n'est pas porteuse. C'est pour ça que ça m'a beaucoup.
Alors, spécifiquement pour notre audience, donc, qui sont majoritairement des créatifs et beaucoup des personnes qui sont dans les domaines de l'image. On sait qu'en France, le sujet à l'argent, c'est un sujet tabou. Tu disais même, une fois en rigolant, que que c'est presque plus tabou que de partager sa position sexuelle préférée. C'est dire, mais s'il y a bien une idée préconçue dans les milieux créatifs et artistiques, c'est que parce que, justement, on est entre guillemets des artistes et qu'on fait un métier entre guillemets passion, gagner correctement de l'argent, et t'as entendu, j'ai pas dit gagner sa vie, que c'est pas à l'ordre du jour pour nous les artistes. Et c'est vraiment une idée préconçue qui a la dent dure. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça?
Il y a deux, trois choses. La première, déjà, alors, de manière un peu plus générale, c'est que il y a la notion de, déjà, dans le mot travail, il y a la notion de souffrir, de devoir faire un effort pour, tu vois, avoir quelque chose en retour. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur l'origine du mot travail, tripalium, instrument de contorsion, oui, de torture à trois pieds. Mais dans l'énergie du mot travail, quand on dit, on va bosser, on va au taf, au turbin, à la mine, tu vois, il n'y a pas beaucoup de mots qui parlent du mot travail positif. Le seul que je connais, c'est le mot œuvrer, que j'aime beaucoup.
Ah oui, ah, c'est joli
ouvrage,
ça.
Un bel ouvrage, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de… Là, on revient pour moi au compagnonnage, quelque chose de très honorifique, quelque chose de beau derrière tout ça. Et j'ai vraiment, j'aimerais vraiment qu'on se remette en lien avec ce mot-là, pour moi, qui est vraiment…
Ah, les mots ont une force, ouais.
Oui. Et si tu veux, donc il y a vraiment ce truc-là. Donc, quand je fais quelque chose où j'ai du plaisir… Parce que dès l'école, on nous demande de bien travailler. Hein. On ne dit pas « j'espère que tu prends ton pied à l'école, que tu as du plaisir hein. ». Les conseils des grands-parents, des magins, tu travailles bien à l'école. Tu vois. Donc, on est déjà pris dans ce truc-là qui est vraiment un truc sérieux. Quoi. Donc, quand on a du plaisir, ce qu'on fait nous met en joie et qu'il y a de la facilité, pour beaucoup, il y a de la difficulté à s'autoriser à gagner de l'argent. Bah, c'est comme si je n'avais pas assez fait d'efforts ou souffert ou je ne sais pas quoi pour mériter de l'argent en contrepartie. Soit vis-à-vis de ceux qui souffrent et tout, qui méritent de l'argent parce qu'ils ont souffert, mais soit parce que ce qui était de l'ordre du plaisir avant, ça s'appelait les loisirs, le hobby, mais qu'il y a beaucoup de patrons qui pensent qu'on vient pas au travail pour être en joie, prendre son pied, quoi. C'est comme si ça avait pas de lien, tu vois. Donc, il y a ces premiers pièges. Donc, on fait connexions. Ce qu'on aime et qu'on croit que c'est déjà tellement énorme de faire ce qu'on aime qu'en plus, gagner de l'argent, c'est comme trop demander, comme exagéré.
Son excuse.
C'est presque indécent, voire obscène vis-à-vis de ceux qui souffrent, quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, effectivement, c'est que dans le milieu des artistes, comme tu le disais tout à l'heure, ou on parlait en off, je ne sais plus, il y a comme une croyance qui est, eh ben, galérer pour un artiste, c'est normal. C'est un peu la norme.
Oui.
Alors, évidemment, qu'on peut voir qu'il y a une forme de pyramide, mais on parlait des sportifs, c'est pas différent non plus, hein. Il y a ceux qui sont tout en haut, qui sont visibles, qui gagnent beaucoup d'argent, puis il y a tous ceux qui sont dans des étages plus ou moins plus bas, qui sont pas au même endroit, parce que, ben voilà, il y a 12 clubs de foot ou 20 clubs de foot de première division et passant et 2000, tu vois. Donc, ça limite le nombre de personnes qui peuvent jouer dans ces équipes. Et puis, il y a peut-être X galeries réputées également. Donc, tout le monde ne peut pas y être en permanence non plus.
Enfin, non.
Voilà. Donc, il y a un truc comme ça qui fait que dès le moment où, dans le milieu des artistes, il y a une sorte de croyance qui est presque une forme de fatalité, hein. C'est important de voir ça. Parce que on parle depuis très longtemps en arrière. Donc, dès le moment où il y a cette croyance que, ouais, on fait ça, mais pas pour de l'argent, quoi. Tu vois, et ce pas pour de l'argent, il est en partie fatalité, et si tu veux, il est aussi le piège qui va avec. Parce que aujourd'hui, on aurait le droit de se dire, mais finalement, j'ai un projet professionnel et j'ai aussi le droit de faire ça pour de l'argent. Pourquoi pour de l'argent? Mais pas que, mais aussi, hein, c'est le aussi qui est important. Aussi pour de l'argent, pourquoi? Parce que malgré tout, le meilleur moyen dans la pérennité de mon projet, c'est d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent et de pouvoir continuer de payer les personnes qui travaillent pour moi, d'avoir du matériel, je ne sais quoi. Et souvent, c'est comme si on ne se l'autorisait pas en disant c'est honteux. Ben non, c'est pas honteux. C'est juste que j'ai envie qu'il y ait un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois et que je puisse avoir de la pérennité de mon projet. Parce que quand on fait ce qu'on aime, ce qu'on a envie par-dessus tout, c'est de pouvoir le faire le plus longtemps possible. On est d'accord? On m'a promis de se dire dans 6 mois, j'ai envie de retrouver un travail alimentaire. Absolument pas. Donc, le meilleur moyen, c'est de s'autoriser à gagner de l'argent. Donc, simplement, quand on vient d'un milieu où la plupart des gens ne gagnent pas d'argent, par loyauté, souvent, par loyauté, autrement dit, par appartenance du milieu d'où on vient, on va faire comme les autres. Parce que supposons que l'un ou l'autre d'entre vous commence à avoir beaucoup de succès, est-ce que ceux qui sont dans mon milieu, ils ont deux manières de voir les choses? La première, c'est de dire « waouh, c'est génial, il a du succès, donc il montre que c'est possible. Merci, merci, gratitude à lui. » Si tout le monde était comme ça, ce serait génial, ce serait beaucoup plus facile. Et une autre manière de dire les choses qui est un peu moins honorable que de dire « ah, il a vendu son âme au diable » ou bien pire, il fait du commercial. Hein, c'est le genre de pire injure qu'on peut donner à des créatifs en disant « voilà, hein, quelque part… »
Il fait de la pub.
Tu vois, exactement, tu as ce genre de truc-là qui fait que tout à coup, à un moment donné, c'est devenu quelqu'un de pas bien parce qu'il se met à gagner de l'argent, donc ça devient forcément douteux. Donc là, ce serait plutôt le côté jaloux, puis c'est de manière maladroite de se dire, mais au fond de moi, je crèverais d'envie d'avoir du succès aussi, mais nous, on n'est pas là, tu vois. Donc, je vois vraiment dans mes ateliers, je vois vraiment des personnes, des artistes et autres qui inconsciemment se rendent compte qu'ils se limitent pour ne pas être jugés par ceux qui sont en appartenance de leur clan, en quelque sorte.
Ouais.
Ça vous parle d'une manière ou d'une autre.
Ah, ouais, totalement.
T'as tout résumé, c'est incroyable.
Moi, ça soulève aussi la question du déterminisme social, Christian, parce que t'as peut-être pas l'historique, mais c'est moi qui ai lancé Sens Créatif il y a 5 ans. Laurent, il m'a rejoint il y a 2 ans. Et en fait, je l'ai vraiment lancé en mode self-made man à l'américaine. J'ai envie de trouver des réponses à mes questions et en mode la fleur au fusil. Et tout est possible. Et on y va. Et être créatif, c'est génial. Et on
Jérémy, il est très influencé par justement l'esprit anglo-saxon.
Cette culture anglo-saxonne, ouais. Et j'ai toujours été dans ce truc de... j'en reviens un petit peu, mais un petit peu quand on veut, on peut, et si on se donne les moyens, puis ma vie c'est compliqué, j'ai eu des enfants, et puis ceci, puis cela.
La volonté!
Voilà, et en fait, au fur et à mesure, là on est presque à plus sans interview, j'ai rencontré quand même beaucoup, beaucoup de gens, et au fur et à mesure que je croise les histoires et les parcours, aujourd'hui j'en suis à un petit moment de vertige où c'est comme si j'étais arrivé à une conclusion, et je voudrais vraiment avoir ton regard là-dessus, que les personnes qui ont, gros guillemets, vraiment réussi, donc pour redéfinir la notion de succès évidemment, mais dans les standards généraux, c'est soit des gens qui sont terriblement doués, et ils n'ont pas volé leur succès, ils sont juste très très doués, soit ils ont travaillé justement très très dur, soit ils avaient une longueur d'avance en termes d'arrière-plan familial, de niveau social, de ressources financières, que sais-je. Et ça me turlupine un petit peu, parce que... Je trouve que le côté genre tout est possible. En fait, je rends juste compte qu'on démarre pas tous avec les mêmes cartes en fait. Et du coup, ce rapport à l'argent, au succès, à la réussite financière et professionnelle, ça me questionne. Qu'est-ce que tu pourrais dire?
Ça part avec un déséquilibre en fait, cette question.
Vas-y, précise.
Bah en fait, c'est ce que dit Jérémy, c'est-à-dire que je vais y venir. C'est que du coup, on peut pas se comparer parce que comme on a tous des chances différentes, des expériences différentes, c'est difficile de dire à quelqu'un d'autre regarde, fais comme ci, fais comme ça, etc. Enfin, voilà.
Oui, et déjà peut-être la première chose, et c'est comme ce qu'on nous fait beaucoup croire à travers des formations et autres, c'est de croire qu'il y aurait une formule de la réussite. Il y a la formule de la réussite, tu la suis, tu vas réussir. Tu la suis pas, tu vas pas réussir. Ben, visiblement, c'est pas le cas parce que certains la vendent, pourtant beaucoup la vendent, mais finalement ça marche pas pour tout le monde.
C'est un produit.
Voilà, c'est un produit. Donc si ça marchait pour tout le monde, ce serait une loi de la vie. Il suffit de faire ça et ça marche. Donc c'est pas la règle. Donc derrière tout ça, effectivement, il y a 10 000 choses derrière tout ça. Effectivement, tu l'as dit, vous l'avez dit. De quel milieu familial on vient? Parce que je vois très souvent quand on vient de milieux familiaux désargentés, très souvent, on s'autorise pas à faire beaucoup mieux. Un petit peu mieux peut être acceptable. Je suis encore et toujours en appartenance. Mais à quoi la grande réussite, c'est compliqué. D'ailleurs, on voit même dans les sportifs qui viennent de ces milieux-là, quand ils ont beaucoup de réussite, très souvent, ils vont tout perdre. Ils vont se faire rouler dans la farine par des agents, des gens malhonnêtes. Et inconsciemment, c'est une manière de revenir de là d'où je viens. Donc, si tu veux, il y aura une sorte de tel malaise. Alors, on parlait de milieu d'appartenance tout à l'heure des artistes, mais même familial, ça peut être la même chose aussi. Et c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure avec les gens qui étaient dans l'atelier en disant, mais si vous venez de famille où il y a toujours eu de l'argent, avoir de l'argent, c'est comme naturel et normal. Parce que j'étais baigné là-dedans, tu vois, ça ne demande rien d'extraordinaire. Alors que si je viens de ces milieux désargentés, ça paraît comme juste une montagne, un Everest, d'imaginer un jour d'avoir une certaine aisance financière. Donc, on peut être déjà pris là-dedans. Mais aussi, un des grands pièges, et je pense dans le milieu des artistes, c'est le cas aussi, c'est le piège qui fait que tout le monde n'est pas prêt à la réussite, c'est le piège de la visibilité. Parce que plus je suis visible, plus je peux être jugé, plus je peux être critiqué.
Et c'est
même confortable que personne me voit, personne va reprocher quoi que ce soit sur mon art. Je vais même pousser un peu le trait, que ça va peut-être déranger certains, c'est OK, de me mettre en position de victime, de personne ne me comprend, personne ci, personne ça, alors que ce que je fais est formidable. Mais au fond de moi, il y a inconsciemment, je dis bien inconsciemment, il y a toujours un bénéfice caché, un bénéfice secondaire, quand il n'y a pas de réussite, quand il n'y a pas de succès. Parce que ça me préserve de quelque chose. Et si je dis ça, c'est qu'un jour, je me souviens vraiment, un jour, je me suis dit, mais que de moi à moi, hein. Je me suis dit, Christian, tu es prêt à ouvrir plus grand, à toucher plus de monde, à avoir plus de réussite. Et pourquoi j'ai dit que tu es prêt? parce qu'intérieurement, je me sentais plus solide, je me sentais plus être capable de faire face à la critique et au jugement, j'ai envie de dire, presque inévitable, qui peut arriver quand tu touches plus de monde. Et attendons-nous, hein. S'il y a toujours 1% de gens qui me critiquent, 1% d'un million, c'est pas la même chose qu'un 1% de 100, on est d'accord. Ça fait plus de monde. Mais il y a toujours le même pourcentage de gens qui vont aussi être élogieux avec moi, qui vont avoir de la gratitude vis-à-vis de moi, hein. Le pourcentage ne change pas. Mais juste que, il y a plus de gens, et peut-être des critiques des fois un peu plus dures et tout. Donc, si on n'est pas prêt à ça, on a de bonnes raisons de ne pas avoir plus de succès, plus de réussite. Donc, ça part déjà de, pour moi, de fondation intérieure, d'une certaine solidité intérieure, de ne pas être démoli à la première critique.
Mais c'est pas simple, hein. Surtout que dans notre milieu artistique, notre ego, notre personnalité, ce qu'on produit vient, émane vraiment de nous, notre personnalité. C'est dur de s'en dissocier. Mm-hmm. Et donc aussi dur de se dissocier du succès financier qui peut en émaner ou non, quoi. Bon, c'est un travail à faire sur soi, hein, ça, au final. J'aime bien, je t'ai entendu citer cette situation de Neil Donald Walsh, un auteur américain. Tant que tu t'inquiéteras de ce que les autres pensent, tu seras en leur pouvoir. Et ce n'est que lorsque tu n'auras plus besoin de l'approbation d'autres personnes que tu pourras assumer ton propre pouvoir. C'est ouais. Tellement puissant comme phrase.
Il y a tellement de choses qui sont dites dans cette phrase-là. Et on n'a pas simplement parlé de liberté ce matin. Je disais, mais pour moi, là, je crois que ce qui me semble être la plus grande liberté, c'est une des plus grandes libertés, en tout cas, c'est la capacité à être complètement détaché du regard des autres. Je vais essayer d'être le plus possible qui je suis, avec qui je suis, me comporter à partir de qui je suis. J'ai envie de danser dans la rue, je danse dans la rue. J'ai envie de peindre ça, je fais ça. Enfin, que ça plaise ou pas aux autres, qu'on me dise que je suis dingue ou pas, tu vois. Mais juste, c'est ça que je sens qui est juste. Ben, je vais écouter mes mouvements intérieurs et je vais les exprimer à l'extérieur. Et c'est un chemin, évidemment, interminable. Mais je vois tellement de personnes qui ont encore envie d'avoir l'approbation de leurs parents. Mais même à 50, 60 ans, qui ont encore envie d'avoir l'approbation de leurs parents, de leurs amis, de ci, que ça, que ma famille doit aimer ce que je fais. Eh ben, attends, combien de temps tu vas rester prisonnier de ça? Combien de temps tu vas encore t'empêcher de vivre parce que, pour X ou Y raison, ils ne te comprennent pas, ils n'aiment pas forcément ce que tu fais, quand on parle de l'art, c'est encore plus criant parce que souvent je dis, mais moi, quand j'aime pas une œuvre d'art, enfin, dans le sens que j'aime pas qu'elle ne me parle pas, je suis pas en train de rejeter la personne. Ça n'a rien avec la personne, c'est juste que c'est pas mon style, c'est pas mon goût. J'ai des préférences qui évoluent avec le temps. Et ça s'arrête là, point final. Mais si on se fait un film qui est « on ne m'aime pas parce qu'on n'aime pas ce que je fais », je m'excuse, mais est-ce que vous, que vous n'aimez pas une œuvre d'art, vous êtes en train de dire « machin, c'est un connard ». Je crois pas que c'est ça, en général, on est d'accord. Non, mais simplement, on ne fait pas le même film pour soi qu'on fait vis-à-vis des autres. C'est ça qui est important, d'être capable de voir la différence.
Oui. Je trouve aussi que ça questionne le rapport à la liberté. Est-ce qu'on veut vraiment être libre et autonome financièrement, du coup, ou est-ce que c'est trop responsabilisant? Et pour moi, est-ce que c'est ce pouvoir responsable qui nous fait peur?
C'est une excellente question et je pense que cette liberté fait peur à beaucoup de monde. De toute façon, ce qui nous empêche d'être libre, c'est les propres prisons qu'on se construit, hein. On peut toujours critiquer les autres, l'extérieur, mais c'est de nous à nous, hein, qui nous empêchons d'être libres, qui nous empêchons de, et que c'est important de se souvenir qu'on est libre à chaque instant, de déménager, de quitter son couple, de quitter son job. Chaque instant, on peut faire ce choix. Et comme tout choix, chaque choix a des conséquences, évidemment. Et en même temps, ben, est-ce qu'on est prêt à assumer ces conséquences-là? Tu sais, juste pour la petite histoire, en parlant de libre, et on va parler de libre et argent, c'est intéressant. J'ai travaillé avec une société qui est extraordinaire, qui s'appelle Infusio à Paris. Je le cite parce qu'il me cite souvent également, où chaque collaborateur choisit lui-même son revenu selon un processus qui est fait tous les 4 mois. Chaque collaborateur choisit lui-même son revenu. C'est une liberté absolument dingue. Et en même temps, j'ai vu, pour avoir travaillé avec des certains nombres de collaborateurs, que pour certains, ça devient des vraies prises de tête. C'est-à-dire, il y a une sorte de liberté difficile à assumer parce qu'une fois, si je demande ce revenu-là, qu'est-ce que vont penser les autres? On se compare, on ci ou ça. Je veux bien augmenter si l'autre augmente aussi. Enfin, on a une liberté, on n'est pas prêt à l'assumer. Et des fois, ils disaient, oh, ce serait quand même bien qu'on dise combien je vaux, qu'on décide pour moi, tu vois.
Ouais, un système, il faut mettre un système en place. On en revient à ça, en fait. Ouais, on a besoin de... C'est hyper intéressant.
Et tu parlais tout à l'heure de la peur de réussir. Là, on parle de liberté. Pour moi, de pouvoir responsabilisant, quoi. Et c'est vrai que ce terme même pouvoir, C'est même c'est en thérapie, moi, que j'ai vraiment entendu ça, le fait de contacter sa propre puissance. Ces mots-là, ils font peur. Mais quelque part, c'est de se rendre responsable de ce qui est en nous et d'en faire quelque chose. Même là, en le disant, ça me gêne un petit peu d'utiliser ces mots, mais il n'y a pas d'autre moyen, en fait, de, si on veut vraiment accomplir quelque chose au service des autres ou pour nous, ben, en fait, faut se responsabiliser, quoi, c'est tout. Et puis l'argent, du coup, fait partie du monde dans lequel on est, donc du coup, il y a besoin d'apprendre à le maîtriser, quoi.
Mais c'est sûr que notre propre puissance, notre propre pouvoir aussi créateur, d'être créateur de notre vie, très souvent nous fait peur. Parce que on est capable, je crois vraiment qu'on est capable de beaucoup plus que nous sommes en capacité d'imaginer. Tu sais, je dis souvent, aujourd'hui j'ai un certain succès, et je dis toujours, mais il y a 13 ans en arrière, que je suis devenu indépendant, j'aurais signé pour le quart de ce que je vis maintenant. Mais tous les coups, j'aurais signé, mais avec un sourire jusque là. Et vraiment, c'est ce que je veux dire par là, c'est pas pour me jeter des fleurs, parce que je crois vraiment que avec aussi un certain recul, ce que je fais pour moi n'a rien d'extraordinaire. Je suis juste à l'écoute de qui je suis, j'essaie de le démontrer par des faits, des actes. Mais je crois vraiment qu'au fond, il est bien possible que la vie ait des plans bien plus grands pour nous que nous sommes en capacité de l'imaginer. Donc, si on suivait notre élan de là où on se sent appelé, même quand ça paraît dingue, même quand on se dit on pourrait se satisfaire de ça, quand on se dit mais il y a peut-être des plans plus grands pour nous qui sont là, que nous sommes appelés à faire. Donc, suivant cet élan, qui est suivant dans le courant de la vie, les rencontres, faisant des demandes, voilà, expérimentons joyeusement la vie. Moi, je vois la vie comme un terrain de jeu. Mon terrain de jeu, il est en train d'augmenter parce que j'ai envie de me donner les moyens qu'il augmente pour pas toujours faire la même chose.
Mais est-ce que c'est pas plus simple d'aborder la vie comme un terrain de jeu quand justement on a peut-être déjà suffisamment d'argent ou de ressources? C'est, je pense que certaines personnes diraient, bon, c'est peut-être un peu facile de dire ça, oui. Non?
Alors, on peut dire les choses autrement. Qu'on le veuille ou non, la vie est un terrain de jeu, dans le sens de jeu d'expérimentation.
Et quoi qu'il arrive.
Et l'expérimentation potentiellement apprenante, elle se fait autant, voire parfois plus dans l'inconfort que dans le confort. C'est que dans l'inconfort, c'est-à-dire qu'on peut, encore une fois, choisir de subir sa vie ou choisir de la vivre et d'apprendre de ce que je vis. Et c'est pas parce que j'ai un certain succès que tout ce que je vis est confortable. J'engage plus de monde, je prends plus de responsabilités, c'est plus de pression potentielle aussi. Je pourrais rester dans mon sort de confort, du tout va bien, t'as une belle vie et tout. Non, pourquoi je le fais? C'est parce que juste que je crois que j'ai la capacité de contribuer encore plus et mieux et que ça pourrait être nécessaire de manière très arrogante de ma part, qu'il y ait plus de gens qu'actuellement qui transforment leur relation à l'argent et que je peux être cette personne-là parmi d'autres. Donc, si tu veux, juste d'appréhender la vie, utilisons peut-être le mot terrain d'expérimentation, parce que le mot jeu, peut-être pas tout le monde, mais de toute façon, qu'on le veuille ou non, on vit une succession d'expériences. Ce podcast avec vous est une expérience parmi d'autres. Tout est expérience. Et qu'est-ce que je fais de ces expériences-là? Il ne s'agit pas de se prendre la tête, le chou chaque fois, de devoir apprendre quelque chose. Mais en tout cas, moi, dans l'inconfort, quand c'est compliqué, que c'est difficile, je m'arrête. Je me dis, OK, est-ce qu'il y a quelque chose chez moi qui fait que j'ai généré cela, inconsciemment, évidemment, parce que volontairement, je n'ai pas envie, et j'ai quelque chose à apprendre de cela. Et c'est comme ça que petit à petit, je peux éviter des choses que j'ai fait maladroitement parfois, qui fait que ça m'a amené là pour être un peu plus solide intérieurement et un peu plus expérimenté et conscient dans ce que je vis.
Qu'est-ce que tu adresses, toi, comme méthodologie ou comme situation, justement, pour qu'on se mette à changer notre mécanisme par rapport à ce rapport à l'argent qu'on a de façon singulière les uns et les autres?
Je crois que la première chose à faire, ça va passer par de l'observation. Apprendre à s'observer toujours plus, parce que moi j'ai eu peur de manquer pendant une dizaine d'années sans en être conscient du tout. Mais vraiment en être conscient du tout, j'avais pas, on m'aurait dit t'as peur de manquer, j'ai dit bah non, moi jamais de la vie, alors j'étais bourré de peur de manquer. Donc simplement, parce que tant que je n'arrivais pas à m'observer, à voir quand je faisais mes paiements, j'avais le nœud à l'estomac, pour prendre cet exemple-là, eh ben si j'ai pris conscience de ça, j'aurais bien dit ah il y a peut-être un petit problème là, tu vois, mais tant que tu veux pas le voir.
Est-ce qu'on disait que t'étais radin ou des trucs comme ça, c'est ça?
Mon fils, effectivement, m'a traité de radin.
C'est ouf, ça.
Ouais. Et effectivement, ni mon épouse, ni son frère, ni sa sœur ne m'ont défendu. Donc, j'ai vécu un grand moment de solitude. Mais tu vois, là aussi, c'est une expérience qui était très inconfortable. Et de cette expérience, j'ai dit, je vais m'occuper de ma relation à l'argent. Ce jour-là, j'ai décidé grâce à lui. Donc, j'aurais pu le rejeter, lui dire, t'es qu'un fils ingrat, que tout ce que je t'ai payé et tout ce qui était aussi vrai, aussi potentiellement. Mais à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais en faire quelque chose et peut-être bien que sans lui, je serais pas là aujourd'hui, tu vois.
Est-ce que ça disait sur toi-même, quoi, en fait, ça?
Bien sûr. Alors, même si au départ, il parlait de lui, il parlait juste qu'il était,
il a son problème aussi, hein. Il réclamait un truc. Donc.
Il avait ses frustrations, que j'étais pas aussi généreux qu'il l'aurait voulu. Mais comme je l'ai pris en pleine face comme étant une vérité, qui était pas une vérité, qui était que sa réalité, je me suis dit, si il me voit comme pas aussi généreux qu'il aimerait, je me suis raconté un film qui est peut-être qu'il pense que je ne l'aime pas suffisamment. Et c'est intéressant parce que si j'étais allé vérifier ce film auprès de lui, je suis sûr qu'il m'aurait dit, mais non, papa, c'est pas ça. Mais simplement, le fait que je ne sois pas allé vérifier et que je suis resté avec ce film, générosité, amour, machin, ça m'a tellement bouleversé intérieurement, je me suis dit, même mon épouse, d'un certain temps, me dit, t'es trop crispé avec l'histoire d'argent, je voulais rien entendre, moi, j'ai économisé, j'ai épargné, j'ai gardé mon argent avec des peurs, machin. Je me suis dit, je vais me mettre en chemin, si tu veux. Donc, parce que je me suis raconté un film et que je l'ai cru, ce film-là. Donc, si tu veux, c'est comme quoi, dans l'inconfort, on peut avoir un déclic qui fait que ça va générer d'autres choses qui vont t'amener à des endroits que tu n'imagines pas du tout.
Et c'est vraiment le confort peut t'aveugler. Ouais.
Je trouve intéressant là aussi le fait que tu as soulevé la question de l'amour. Alors sur Sens Créatif, on dit souvent de nous qu'on est un peu des punks bisounours, on n'a pas peur d'être un petit peu cucu par moment. Et dans ton slogan, il est écrit voilà, de l'argent à l'amour pour offrir le meilleur de soi en étant connecté à sa source. Le mot amour, il est fort et tu viens de l'utiliser là dans ton exemple familial, ce qui a d'autant plus de sens parce que voilà les liens familiaux. Et qu'est-ce que tu entends par là, voilà, de passer de l'argent à l'amour justement?
Alors aujourd'hui, je peux vraiment le dire parce que c'est une évidence pour moi. Je n'ai pas trouvé de meilleure piste pour avoir une relation à l'argent plus sereine, plus tranquille. Et quand je dis une relation à l'argent plus sereine, plus tranquille, c'est pas dire juste gagner beaucoup d'argent, hein, parce qu'encore une fois, gagner beaucoup d'argent, avoir plein de peurs, j'en connais plein. Donc c'est pas une relation sereine si on a plein de peurs. Donc, relation à l'argent sereine, donc ça veut dire autant être capable de l'utiliser, de le faire circuler, que d'arriver à en générer, à l'économiser si c'est nécessaire, à le dépenser, enfin à parler d'argent avec facilité, voilà, etc., etc. Donc vraiment de manière tranquille et sereine. Le meilleur moyen d'arriver à ça, c'est d'apprendre à mieux et plus s'aimer. Je n'ai pas trouvé de meilleure voie que celle-ci, parce que si on tend vers l'amour inconditionnel, est-ce qu'il nous viendrait à l'idée de nous limiter si on est dans l'amour avec soi-même? Si j'aime mon fils ou ma fille, est-ce que je vais lui dire, non, mon fils, surtout n'aie pas trop de succès. Non, mais attends, t'es pas trop capable. On va jamais dire ce genre de choses à quelqu'un qu'on aime. Donc, pourquoi est-ce qu'on se le dirait à nous? Pourquoi on se ferait subir des limitations si on s'aime? Ça n'a aucun sens. Donc, plus j'apprends à m'aimer, et m'aimer, c'est pas un truc égotique. Apprendre à apprécier l'être humain que je suis tel qu'il est, sans vouloir être autrement, parce que c'est encore un manque d'amour que penser que je suis pas assez ci, pas assez ça.
Ouais, faut changer.
Voilà, on est très fort là-dessus, hein, et ça, c'est un esprit de manque. Donc, tant que je peux aimer l'être humain que je suis, l'être humain en apprentissage avec ses qualités, ses défauts, mais qui fait du mieux qu'il peut, plus je peux être dans une forme de bienveillance, de douceur avec moi-même et arriver à donner de la valeur à l'être que je suis parce que, effectivement, ben, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir de la valeur. C'est encore un autre piège, hein. De pouvoir juste être m'aimer tel que je suis sans devoir être un fer humain plutôt qu'un être humain.
C'est ça, ouais. Être humain.
Un fer humain, ouais.
et souvent, justement, spécifiquement pour nos métiers, on trouve souvent notre valeur dans ce que l'on fait en étant un human doing and not a human being. Et c'est un shift qui n'est pas évident. Qu'est-ce que tu conseillerais pour passer justement de... Évidemment, on est des êtres humains qui faisons, on a besoin des deux, parce que si on reste dans l'inaction, c'est peut-être pas très intéressant, hein, notre contribution à l'humanité. Mais c'est une chose de se mettre en mouvement, c'est une autre de trouver son identité uniquement que dans ce qu'on fait.
Oui, absolument. Donc, c'est-à-dire que tu vois, ça parle de deux choses. Il y a ma valeur intrinsèque, c'est la valeur de qui je suis au plus profond de moi, et que cette valeur-là, on peut pas me l'enlever. Et puis, le piège de chercher la valeur à l'extérieur, je suis quelqu'un de bien, seulement si on me dit de l'extérieur que je suis quelqu'un de bien. Et moi, j'ai fonctionné comme ça pendant une dizaine d'années. J'avais tellement de manque d'estime de moi, j'étais un quémandeur dans ma manière d'être. C'était « dites-moi que je suis quelqu'un de bien, mais j'arrive pas à me le dire ». Donc, j'étais affamé de ça. Donc, j'étais complètement dépendant de l'extérieur. Donc, ma valeur intrinsèque, c'est vraiment « il y a une valeur en moi qui est là et qui est là en permanence ». Après, si tu veux, si je fais des choses à partir de quelque chose de... d'une envie, quelque chose de solide, où je fais des choses parce que j'ai envie de montrer quelque chose de moi ou qu'on voit des choses de moi, c'est pas le même mouvement intérieur. Je sais pas si c'est clair quand je dis des choses comme ça, tu vois. je sens que je suis appelé à faire ça, je vais créer un nouveau produit, une action, faire quelque chose parce que je me sens appelé à ça, ou je vais me comporter de cette manière parce que j'aimerais que les gens voient ça de moi ou croient ça de moi ou je ne sais pas quoi. Donc une fois c'est l'ego, et il s'agit pas de supprimer l'ego, mais de le voir, de l'ego, et dans l'ego, il y a en chacun d'entre nous un enfant blessé. Et très souvent, mon enfant blessé, c'est lui qui prend les commandes parfois, celui qui a pas eu d'attention quand j'étais petit, machin, qui aimerait tellement, c'est « voyez-moi, aimez-moi », tu vois, qui est tellement en train de crier. Et puis des fois, le Christian, l'adulte, il n'a pas besoin de tout ça. Le Christian, l'adulte, il est tranquille. Il est tranquille avec qui il est, tu vois. Et c'est vraiment ces différentes parties de nous qui sont là. Et plus on met de la conscience sur quelle partie est aux commandes, plus il y a de chances que nos actions soient ajustées.
Je sais pas si ça... Et une fois qu'on prend on blague souvent en utilisant Jean-Claude Van Damme comme référence, qui dit qu'il faut être aware, et donc du coup mettre de la conscience dans tout ça. Mais du coup, quand on met plus de conscience justement par rapport à notre rapport à l'argent, par rapport à là d'où on vient, par rapport à nos insécurités, nos peurs, etc. Comment on peut changer nos mécanismes? C'est marrant parce que même le fait de dire changer. Il y a ce petit côté développement personnel, je dois changer. Alors, peut-être de s'accueillir déjà dans un premier temps et ensuite d'aller vers, aller vers l'amour. Tu vois, c'est genre, plutôt que de se dire, ah ouais, c'est vrai, j'ai un mauvais rapport à l'argent, il faut à tout prix que je change si je veux gagner du pognon. Enfin, tu vois.
Alors, si tu veux, bien sûr, après l'idée, ça peut être de dire, s'observer, c'est déjà le premier moyen de voir est-ce que je suis moi-même pris dans un piège que je ne vois même pas. Parce que la plupart du temps, on a pris dans un piège, c'est comme si on avait un piège au pied, puis qu'on marche en trimbalance, machin, en fer, difficilement. Donc, on n'avance pas de manière aussi fluide qu'on pourrait. Et souvent, on ne les voit pas, ces pièges-là. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas aussi fluide que ça pourrait? Parce que j'ai beau mettre en place plein de choses et tout, finalement, j'ai l'impression que le succès n'est pas au rendez-vous. Donc là, ça peut être intéressant, c'est pour la question. Est-ce que il y a un bénéfice caché de rester dans cette situation-là? Et est-ce qu'il y a une peur? Je dis souvent, quelle est la peur ou le pire ou le plus grand danger si vous aviez beaucoup plus de succès, si vous étiez beaucoup plus visible, si vous gagniez beaucoup plus d'argent? Et là, on va commencer à avoir des réponses de ce qui nous fait peur, et peut-être qu'on est allé voir cette partie-là, on est allé s'accueillir dans cette partie-là qui est une partie de moi, mais c'est pas tout moi. Et encore une fois, l'amour de soi, ça se démontre par des actes. C'est pas, moi, je peux me regarder devant le miroir en me disant, Christian, je t'aime, j'ai aucun problème avec un grand sourire, je peux pas à la même époque, aujourd'hui, je peux. Mais si, en même temps, je m'inflige des horaires de dingue, je bouffe de la merde, je sais pas quoi, puis je dors pas, je suis pas en train de me montrer beaucoup d'amour, tu vois. C'est pour ça que ça se montre par des actes, par une manière d'être en relation avec soi, de se donner, de bien se nourrir, de se donner.
Ouais, c'est la manière dont tu te nourris, ouais, c'est.
Voilà,
c'est
espaces de vie, des espaces de tranquillité, plutôt que d'être dans le faire. Et il y a plein de moments, je me dis, waouh, Christian, tu n'es pas encore là, t'es pas très doux avec toi-même. Donc, c'est pour ça que c'est important, déjà, de changer de manière très concrète. Et vraiment, là, j'aime bien cette question. Je crois que c'est aussi Neil Donald Walsh qui disait, si je m'aimais, parce que je m'aime, et continuez la phrase. Vous allez voir que peut-être, bien souvent, ce qui va sortir, c'est pas ce que vous faites dans votre vie maintenant.
Tu avais évoqué, plutôt le biais de la loyauté. Et je sais que actuellement tu travailles beaucoup justement sur la tactique de la déloyauté. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ce truc un peu contre-intuitif peut être vraiment salvateur?
Désobéissez.
donc en fait la question, si tu veux, c'est que par loyauté, souvent on prend tout le paquet. Alors déjà, loyauté familiale, c'est qu'au départ nous portons encore, je dirais, cellulairement ce truc que de l'époque où ils vivaient dans la nature, que si je ne suis pas en clan, si je me fais éjecter du clan, je suis mort, hein, quelque part.
Ouais.
C'était une loi de la vie, quelque part. C'était ce qui arrivait.
La loi de la grotte, la loi de la caverne.
Donc, et la tribu. Le meilleur moyen d'être d'un appartenant, c'est pas être rejeté, c'est de faire ce qui correspond au fonctionnement du clan, et voilà, et de pas être en mode rebelle, quoi. Donc, on porte toujours ce truc-là en nous qui fait que si je veux avoir de l'attention positive, être aimé, alors là, il y a plus de question de vie ou de mort qui se joue, mais on est encore en fonctionnement comme s'il y avait une question de vie ou de mort. Je vais être en appartenance, donc je vais fonctionner comme le clan. Mais le comme le clan, c'est pas toujours porteur, parce qu'il y a des clans, le clan avant tout au départ c'est une famille, mais après on parlait tout à l'heure du clan qui peut être du milieu des artistes ou d'autres choses, hein, qui peut être l'apparence religieuse ou je ne sais quoi. Mais pour te dire qu'à un moment donné, si dans le clan il y a la croyance que l'argent c'est pas pour nous on n'y a pas droit à l'abondance, loyauté, je vais fonctionner comme ça, puis je vais aussi voir petit, je vais pas m'accorder à vivre de l'abondance parce que je vais prendre les fonctionnements du clan. Donc aujourd'hui, moi, ma proposition, c'est de dire qu'est-ce que dans le clan, soit dans les croyances, dans les comportements, dans les façons de faire, sont porteuses. Je vais les chérir et les honorer et les vivre. Et qu'est-ce qui n'est pas porteur, qu'est-ce qui est limitant, limitatif, et que je peux m'autoriser déloyal, sachant que la déloyauté n'est pas du désamour ni un manque de respect. La déloyauté, c'est m'autoriser à prendre un autre chemin, à ouvrir une nouvelle voie. Et parfois, pour certains, d'être dans un milieu créatif, c'est déjà une déloyauté au schéma bien indiqué d'un travail salarié, machin, etc. Et tu vois, souvent, quand on est déloyal, qu'on s'autorise à ce nouveau chemin, si c'est fait avec une part de culpabilité, souvent, il y a comme inconsciemment, il y aura un prix à payer. Ah ben, moi, j'ai de la liberté, mais en contrepartie, je souffre quand même un peu, puis je galère un peu, tu vois, parce que je peux pas tout avoir dans la croyance. Parce que si je fais ce que j'aime, je suis libre, et en plus, je gagne un paquet de pognon, ah ben, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont penser, ceux qui galèrent, tu vois, il y a comme trop d'écart. Donc, comment je peux être déloyal à tout ce qui est pas porteur? Déloyal, encore une fois, c'est pas un manque de respect, c'est juste une autorisation à ouvrir une nouvelle voie. Moi, ma déloyauté à moi, c'était vis-à-vis des hommes de la famille qui ont tous fait faillite les uns après les autres en étant entrepreneurs. Moi, j'ai aucune envie de faire faillite, j'ai aucune intention de faire faillite, donc je suis déloyal à ce fonctionnement de ne pas s'autoriser à avoir du succès de manière durable et qu'à un moment donné, il y a un prix à payer de revenir à zéro de là où on vient, du milieu agricole d'où on vient. Il y avait un peu ce fonctionnement-là inconscient dans ma famille.
Ouais, c'est s'autoriser, se donner les moyens. Oui. Je fais attention à l'heure, Christian, je vois qu'on y est presque. Est-ce que tu aurais éventuellement un dernier conseil ou message que tu aimerais adresser à nos auditrices avant de nous laisser?
En tout cas, mon message, c'est que si vous voyez que les histoires d'argent, ça vous bloque, ça vous freine, ça vous empêche de vous déployer, d'offrir le meilleur de vous-même, j'ai envie de dire, occupez-vous de ce chantier, mais pas un chantier dans le sens... plus comme d'explorer, encore une fois, c'est, j'ai envie d'explorer un peu ma relation à l'argent, j'ai envie de m'observer que je dois fixer un prix, que je parle d'argent avec un client ou l'autre, comment je me sens. Enfin, apprenez à découvrir un peu plus de vous à travers juste en ouvrant un peu plus votre esprit sur ces questions-là plutôt que les rejeter, et peut-être aussi observer aussi peut-être ceux qui ont un certain succès, comment vous avez, quel regard vous avez sur eux. Tant que vous êtes jaloux, vous n'aurez pas envie d'avoir du succès parce que vous n'avez pas envie d'être jalousé. Mais par contre, si vous trouvez que c'est super, ben réjouissez-vous de ceux qui ont du succès en disant c'est possible. Ça fait du bien de savoir que c'est possible quand même. Intéressez-vous peut-être à voir qu'est-ce qu'ils ont fait eux, peut-être de différent, de spécial, peut-être qui pourrait peut-être aussi vous aider, vous inspirer.
Merci beaucoup, Christian. C'était en mode sniper. Là, bam, franchement. Merci infiniment pour ton temps, notamment pendant ta pause, parce que t'es comme tu l'as dit là en atelier depuis 2 jours. Merci d'avoir dégagé du temps pour répondre à nos questions. C'était formidable. Merci beaucoup.
Un plaisir.
Merci à chacun et chacune d'entre vous qui avez suivi le direct sur Twitch. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors plus sur Twitch, c'était le dernier enregistrement en direct en ligne sur Twitch de l'année. La semaine prochaine, vous nous retrouvez. Nous, on vous retrouve pas, mais vous nous retrouvez avec le duo Isinori, qui sera disponible du coup sur le podcast de manière traditionnelle. Et puis on vous redonne rendez-vous le mercredi 6 décembre. Pour faire la fête tous ensemble pour l'enregistrement en public du podcast à la Slow Gallery à Paris, en compagnie de Grosduc et Bouka, Pierre-Emmanuel Lier et Yukiko Noritake. Ça va être, c'est un peu notre tradition, Christian. On aime bien toujours terminer l'année avec du vrai, de l'humain, à faire la fête tous ensemble. Donc, si vous êtes sur Paris, venez nous voir. Vous connaissez nos enregistrements en public. C'est toujours un chouette moment à vivre. Donc, on espère que vous serez nombreux et nombreuses. Voilà, on vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt, Christian.
Au revoir, Christian.
À bientôt, tout le monde.
Ciao, ciao.
Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux.
Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast.
Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast.
Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message.
Sur ce, on vous donne rendez-vous rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas,
Everything is connected!